les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Bonsoir à tous. Dans quelques instants, l'Amérique et vous avec Jean-Roger Bion. Mais d'abord, le tour de l'actualité mondiale. D'abord, les titres. En Somalie, une attaque d'Al-Shabaab a fait au moins 25 morts. Au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram a lancé de nouvelles attaques et en fait environ 30 morts. Et puis au Burundi, le pouvoir met en garde contre toute tentative de soulèvement. On commence tout de suite avec la situation en Somalie où au moins 25 personnes ont été tuées, y compris l'adjoint au maire de Mogadiscio, une douzaine d'autres blessés dans une attaque contre un hôtel fréquenté par les travailleurs et les membres du gouvernement somalien. Et selon des témoins, c'est une voiture piégée qui a explosé au central hôtel au moment où les musulmans finissaient la prière du vendredi. Puis une fusillade a éclaté entre les assaillants et les forces de sécurité. Le porte-parole des forces de l'ordre, Kassim Ahmed Robol, a déclaré à la Voix de l'Amérique qu'on ne sait pas comment les assaillants ont pu entrer dans l'enceinte de l'hôtel. Et puis la branche libyenne du groupe État islamique a revendiqué les attentats perpétrés vendredi à Al-Koba, dans l'est libyen, qui ont fait au moins 31 morts et 40 blessés, Claire Morin-Jibou.
Dans un bref communiqué signé par la filiale de la Cyranéique de l'État islamique, le groupe terroriste dit avoir voulu venger le sang de nos musulmans à Derna, place forte des islamistes radicaux visés cette semaine par des raids aériens libyens et égyptiens. L'État islamique se félicite d'avoir tué et blessé des dizaines de personnes lors de ces attaques et affirme avoir visé le centre des opérations du général Khalifa Haftar. Appuyé par le Parlement et le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, le général Haftar mène depuis plusieurs mois une opération contre les terroristes dans l'est du pays. Ses forces ont affirmé avoir coordonné avec l'armée de l'air égyptienne les frappes menées lundi contre des positions présumées de l'État islamique à Derna. L'Égypte avait mené ses raids en représailles à l'annonce par le groupe terroriste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens.
Claire Morin-Jibour, au moins 30 personnes ont péri jeudi dans des attaques de Boko Haram. Les combattants de la secte islamiste au Nigeria ont attaqué deux villages près de Chibok, dans le nord-est du pays, où le groupe islamiste avait enlevé plus de 200 lycéens en avril dernier, Ishakaba.
Les villages de Tlema Kalama et Gatamarwa, cibles des attaques, ont été rasés, incendiés par les islamistes qui ont fait irruption à la mi-journée d'après l'AFP, qui cite Pogo Bitrus, le chef du conseil des anciens de Chibok. Il y a 4 jours, les islamistes avaient mené une attaque similaire et rasé la localité d'Askira Uba dans la même zone. Selon Pogo Bitrus, les hommes qui ont attaqué les deux villages ce jeudi fuyaient Askira Uba, où des soldats ont été dépêchés après l'attaque du 16 février. Certains assaillants ont fui en direction de Gouoza, près de la frontière avec le Cameroun, et dans la forêt de Sambisa, où Boko Haram dispose de camps de fortune. Chibok était devenu célèbre en avril 2014, lorsque Boko Haram y avait enlevé 276 lycéennes, provoquant une indignation mondiale et une mobilisation internationale sur les réseaux sociaux pour réclamer leur libération. 57 des jeunes filles ont réussi à s'enfuir, mais depuis 10 mois, les autres sont toujours portés disparus.
La présidente du Liberia, bientôt à Washington, Barack Obama, recevra Ellen Johnson's Sirleaf la semaine prochaine, plus précisément le 27 février à la Maison-Blanche. C'est ce que nous indique l'agence France-Presse. Et puis en Centrafrique, une vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme proposent la création d'une cour pénale spéciale pour juger les crimes perpétrés dans le pays depuis le 1er janvier 2012. La demande a été adressée au CNT, le Parlement de transition. Au Burundi, le ministre de l'Intérieur a mis en garde contre toute tentative de soulèvement dans le pays. Au lendemain de la grande manifestation de soutien à Bob Rugurika, le directeur de la radio RPA, tout juste libéré sous caution. Le gouvernement accuse l'opposition, qui est prête, selon lui, à tout faire pour saboter les élections à venir. Et puis, conflit au Soudan du Sud, la délégation gouvernementale a quitté Djouba pour Addis Abeba, où doivent reprendre les pourparlers de paix. Selon l'AFP, l'organisation intergouvernementale est-africaine donne aux belligérants jusqu'au 5 mars pour trouver un accord définitif. Le président zimbabwéen Robert Mugabe, au pouvoir depuis 1980, fête demain, samedi, ses 91 ans, faisant fi d'une nouvelle polémique sur le coût des festivités organisées la semaine prochaine aux célèbres chutes Victoria. C'est ce que rapporte l'AFP. L'homme qui affirme qu'il finira centenaire a jusqu'à présent fait mentir toutes les rumeurs sur son état de santé, alors qu'on l'a décrit à maintes reprises au seuil de la mort, lui prétend notamment un cancer ou une éventuelle volonté de passer la main. La constitution zimbabwéenne lui permet théoriquement de rester au pouvoir jusqu'à 99 ans.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Ukraine, deux nouveaux soldats ont été tués et trois blessés au cours des dernières 24 heures, a annoncé ce vendredi un porte-parole de l'armée gouvernementale. De son côté, l'administration séparatiste de la ville de Donetsk, fief des rebelles, a affirmé qu'une femme civile a été tuée dans un bombardement. Un survol de la crise ukrainienne avec vous, Jacques Aristide.
Une trêve qui n'en est pas une, mais les dirigeants occidentaux continuaient ce vendredi de pousser au respect des accords de Minsk. À Paris, la chancelière allemande a estimé que le processus de paix en Ukraine prendrait du temps. Angela Merkel a appelé, comme le président français François Hollande, à la fin des combats. Ce vendredi encore, les rebelles pro-russes ont indiqué vouloir échanger les 100 soldats ukrainiens qu'ils ont capturés pendant la débâcle de Debaltseve avec ceux détenus par Kiev, ce que le gouvernement du pays n'a pas confirmé. Washington a accusé les rebelles d'avoir bafoué le cessez-le-feu plus de 250 fois. Au sujet de la demande de l'Ukraine pour une mission de police de l'Union européenne dans l'est du pays, la commission de l'UE a appelé les autorités ukrainiennes à ne pas spéculer à ce propos, affirmant qu'il fallait plutôt se concentrer sur l'application du cessez-le-feu. Pour sa part, le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme s'est dit profondément inquiet du sort des civils, des prisonniers et des blessés à Debaltseve. Le bilan du conflit d'après Rupert Colville s'établit maintenant à près de 5700 morts depuis avril 2014.
Voilà, c'était Jacques Aristide. La Grèce devrait rester dans la zone euro, c'est l'opinion des leaders européens, alors que les ministres des Finances des 19 membres peinaient à trouver un compromis sur le prolongement de la dette grecque qui expire dans 8 jours. Lors d'un point de presse à Paris, en compagnie du président français François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que Berlin ferait tout pour éviter la sortie de la Grèce. Cependant, l'incertitude planait encore vendredi après-midi à Bruxelles suite aux discussions très compliquées entre Athènes et ses partenaires européens. Pour parler sur le nucléaire iranien, des rencontres sont prévues aujourd'hui et demain entre le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, le numéro 3 du département d'État, Wendy Sherman, en préparation à la réunion des directeurs politiques du groupe 5+1 dimanche à Genève. En outre, le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif doivent s'entretenir de nouveau en présence d'un diplomate de l'Union européenne avant la réunion du 22 février. Les grandes puissances et l'Iran négocient depuis plus d'un an un accord global sur le programme nucléaire de Téhéran pour mettre fin à plus de 10 ans de crise diplomatique. Les enquêteurs de l'ONU sur la Syrie ont publié aujourd'hui leur 9e rapport, se disant prêts à rendre public une liste confidentielle d'auteurs de crimes de guerre qu'ils ont dressés depuis 3 ans. Ce rapport intervient quelques jours avant la session de mars du Conseil des droits de l'homme à Genève. Mais les enquêteurs onusiens ne veulent pas s'arrêter là. Ils appellent à la poursuite en justice de tous ceux qui ont commis des crimes de guerre dans le conflit syrien. Cette guerre civile a déjà fait plus de 210 000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés. Les forces politiques yéménites ont avancé vers un accord pour mettre un terme à la crise qui secoue le pays depuis la prise de pouvoir par la milice chiite des Houthis, selon l'émissaire de l'ONU, Jamal Benoui, que cite l'AFP. Le Yémen est plongé donc dans le chaos depuis la montée en puissance de la milice des Houthis. Et puis pour terminer, la 5e étape du Tour cycliste Amissa Bongo au Gabon. Le Biélorusse Yoheni Hutarovich s'est imposé au sprint vendredi lors de la 5e étape de cette course disputée sur 143 km entre Lambaréné et Kango, offrant une 2e victoire en 3 jours à Bretagne Séché Environnement. Et selon l'AFP, le coureur biélorusse a devancé l'un des favoris, le français Johan Gène, une nouvelle fois 2e. Le peloton de la Tropicale est attendu ce soir à Port-Gentil pour un contre-la-montre par équipe de 8,5 km en nocturne. Et puis un mot de football, hein, les Ivoiriens champions en titre ont réussi à renverser la vapeur devant le Cameroun au terme d'un match dominé en bout par les Lions indomptables. On parle là des Cannes des moins de 17 ans.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, liberty and justice for all.
Coup de projecteur sur le bureau des affaires africaines à la mairie de Washington, dans le district autonome de Columbia. Les lignes bougent et de nombreux projets voient le jour pour les membres de la diaspora africaine. Voyage au cœur de l'OAA, The Office of African Affairs, dans le gouvernement de Washington DC. Bonsoir, bienvenue.
L'Amérique et vous, Jean-Roger Billon.
Aider les membres de la diaspora, c'est le leitmotiv du Bureau pour les affaires africaines. Ce bureau a effectué sa rentrée récemment. À cette occasion, Madame le maire Muriel Bowser a nommé un nouveau directeur exécutif pour conduire les affaires africaines. Quelles sont les attentes des membres de la diaspora? Réponse dans un instant.
Éclat de voix.
C'est Mamadi Camara. Moi, je suis fondateur de Guinean Diaspora Network. Et on essaye de se battre pour la communauté guinéenne, mais de façon générale pour la communauté africaine. C'est une très grande opportunité pour la communauté africaine. Moi, je suis de Maryland, je suis de Montgomery County. Nous avons initié ce même concept depuis 2009 et on appelle African Affairs Advisory Group, je suis du board, et ils ont essayé de copier plus ou moins sur ce que nous sommes en train de faire. En fait, c'est des opportunités qui défendent la cause africaine à tous les niveaux, que ce soit humanitaire, que ce soit économique, financier. On expose un peu les problèmes africains au leadership. Par exemple, au niveau de DC, ça sera exposé aux mairies et justement, ils vont saisir sur les opportunités qu'il y a. Ils ont un financement qui peut leur permettre non seulement d'engager des jeunes étudiants en tant que stagiaires, ce qui est déjà très grand, et mieux que ça, ils peuvent organiser des forums, des workshops qui pourront quand même éduquer la communauté sur les problèmes pressants, non seulement ici à DC, mais également au niveau des États-Unis.
Le gouvernement local crée l'initiative. Est-ce que vous qui en avez l'expérience au niveau du Maryland, est-ce que ça a vraiment porté? Est-ce que les Africains s'y sont impliqués?
Absolument. Vous savez, le problème que nous avons en tant qu'immigrants, c'est qu'on est très lent. Surtout nous, notre génération, on est encore collé aux réalités du pays.
Les réalités du pays, c'est quoi? C'est-à-dire?
Ben, on est toujours très... On n'est pas souvent optimiste. On est un peu au ralenti. Et on ne croit pas exactement à ce que vous me dites, ce que moi je dis à l'autre, ainsi de suite. Chacun veut faire le solo, alors que ce pays-là a été fondé sur la communauté, le communautarisme, où on se donne la main et voilà, on évolue ensemble. Les Africains, on a tendance toujours à se disconnecter l'un de l'autre, ce qui fait que nos mouvements sont très affaiblis. Mais je pense qu'en copiant, par exemple, ce qui se fait dans un autre État, eux, ils ont pu aller déjà très loin parce qu'ils ont un financement. Ils ont un budget. Nous n'avons pas de budget après toutes ces années. Ils relèvent de la mairie. Donc, ils sont beaucoup plus en avance sur nous, de façon peut-être structurelle. Mais nous autres, on est en train d'arriver progressivement. Donc, moi, je crois que quelque part, c'est un réveil pour les Africains de se consolider, de se solidariser, parce que ce n'est pas nous qui avons créé ces opportunités-là. Ce sont d'autres, ceux qui sont ici, qui ont donné un sens à notre vie, à nous, à notre culture, à nous, et qui disent, ben voilà, on peut vous aider à vous rassembler. Et même ça encore, on ne donne aucune importance.
Ouais, je m'appelle Serge Adigo, je travaille à NDI, National Democratic Institute. Je pense que c'est une très très bonne chose, parce que la communauté africaine dans DC grandit, et n'a pas beaucoup de ressources, beaucoup d'informations. Et je pense que ce bureau peut apporter beaucoup d'aide à la communauté africaine. Et dans tous les domaines, hein, dans le domaine scolaire pour les enfants, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'emploi, apparemment aussi il y a quelques initiatives, et dans le domaine de la création d'entreprises pour les Africains. Donc je pense que c'est une bonne initiative.
En somme, ça comble un vide.
Oui, tout à fait. Parce que ici à Washington, les Africains souvent n'ont pas d'informations sur ce qu'ils peuvent faire, là où ils peuvent aller pour être aidés. Et je pense que ce bureau peut combler le vide qui existe.
Alors vous travaillez pour une organisation comme NDI, vous faites la promotion de la démocratie. Qu'est-ce que vous pouvez retirer en tant qu'organisation d'une collaboration avec l'Office des affaires africaines?
Ben, je pense que la diaspora joue un rôle important parce que n'oubliez pas que le transfert d'argent en Afrique est très important. Je ne parle pas au nom de NDI, hein. Ici je suis à titre personnel. Mais si vous me demandez mon opinion, je pense que ce serait intéressant que ce genre d'organisation collabore avec le bureau des affaires.
C'est très dommage, quoi.
C'est Daniel Anago.
C'est très bon parce que déjà c'est le centre de diplomatie du monde. Donc avoir une office ici, c'est essentiel pour les Africains.
Qu'est-ce que les Africains peuvent venir trouver ici? Quel bonus ils peuvent avoir avec cette organisation de la mairie?
Bon, pour la diaspora, déjà, ça nous donne une voix. Parce que parler au département d'État, c'est plutôt pour les gouvernements. Mais l'office à la mairie, ça donne une voix à la communauté africaine. Donc c'est très important.
Alors, en venant au lancement de cette initiative, est-ce que vous-même, dans votre fort intérieur, vous espérez quelque chose pour la communauté?
Moi, j'ai toujours l'espoir. Mais ce qui est très important, c'est qu'il faut que nous, on travaille toujours. Parce qu'on a toujours l'habitude de laisser le travail aux gens qui sont... En fait, c'est leur travail. Mais j'ai l'espoir parce que je sais comment je vais travailler avec eux. Mais il faut faire du travail.
Alors, qu'est-ce que les Africains peuvent gagner? Pratiquement, on vient de parler d'immigration, d'emploi. Qu'est-ce que vous entrevoyez en filigrane?
Bon, au début, c'est le renseignement, c'est ce qui est très important. Puis se renseigner. Il y a un centre où on peut se renseigner, avoir des bonnes informations sur des problèmes qu'on a dans la communauté. On a une voix qui est très importante, mais il faut qu'on travaille ensemble. Ce n'est pas toujours ce qu'on va gagner. C'est toujours, il faut qu'on commence à réfléchir à ce qu'on va mettre dedans dans cette affaire.
Est-ce que vous avez l'impression qu'une telle organisation manquait sur la place?
Oui, il y a toujours une vide. Il y avait une vide. Mais je pense que ce bureau, ça peut beaucoup nous aider comme Africains dans la communauté américaine. Surtout à Washington, c'est très important.
Comme vous pouvez le voir avec le Bureau des Affaires africaines à Washington, les Africains ont maintenant un repère dans la capitale des États-Unis. Le nouveau directeur exécutif est un Africain, il parle français et va nous dévoiler dans un instant ses priorités et ses moyens d'action.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'avis du spécialiste.
Et notre invité, je vous l'ai dit, est le directeur exécutif du Bureau des Affaires africaines à la mairie de Washington. Il se nomme Mamadou Samba. Il est originaire du Sénégal.
J'avoue que j'ai été un peu... Je suis aussi très content et aussi fier d'être nommé par notre maire et avec cette confiance qu'elle m'a accordée. Et c'est une occasion de continuer de servir la population africaine à Washington DC et dans les régions... À côté.
Est-ce que ce poste existait avant ou bien il a été créé sur mesure pour vous avec l'arrivée de la maire Muriel Bowser?
Oui, en fait, ce poste existait avant. En fait, l'office a été ouvert en 2006 et en fait, j'ai commencé à travailler là-bas en tant que stagiaire en 2011. Donc, il y a 3 ans de cela, j'étais là-bas en tant que staff, en tant qu'assistant spécial. Donc, ce bureau a toujours existé. Et pour moi aussi, c'est une fierté de continuer la mission du bureau en tant que directeur exécutif et aussi en tant que membre de la diaspora.
Quelles sont vos attributions là-bas?
Bon, on joue le rôle de liaison entre la communauté africaine et le gouvernement de Washington DC. Il y a beaucoup de limitations en matière de langue, en matière de développement économique, en matière de ressources de financement des entreprises et des startups. Donc, on joue le rôle d'acteur de développement, d'acteur de l'augmentation des capacités des citoyens africains. Donc, en quelque sorte, on joue le rôle d'expert parce qu'on a une compréhension de la culture, de la langue, des situations socio-économiques. On apporte aux autres agences dans leur mission de servir la communauté d'une manière générale, mais spécifiquement de la communauté africaine.
Alors, est-ce que Mme Bowser, qui est la nouvelle maire de Washington, oui, avant de vous nommer, vous a dit qu'elle a un projet pour les Africains?
Pas spécifiquement, mais... L'essentiel est, ce n'est pas d'avoir un projet uniquement pour les Africains, mais c'est essayer de mettre les Africains dans le milieu de tout ce qui se passe à Washington DC. C'est les projets économiques, essayer de faire en quelque sorte que les Africains sont bien représentés. En ce qui concerne l'immobilier, vous savez, Washington DC, ça coûte trop cher pour habiter ici. Donc, l'essentiel est de ne pas avoir un projet spécifiquement pour les Africains, mais c'est de faire en quelque sorte que les Africains se retrouvent dans les projets du maire, en quelque sorte.
Alors, c'est sur vous que le choix a été porté. Vous avez certainement beaucoup de choses en tête à faire pour toute la diaspora qui vous regarde. Parce que c'est notre culture de regarder celui qui porte le chapeau. Alors, qu'est-ce que vous avez comme projet pour les Africains, vous-même?
Bon, oui, j'ai beaucoup de choses à faire, mais l'essentiel est que je ne peux pas le faire seul. J'aurais besoin du support de la communauté, du gouvernement et de tous les membres de la diaspora. Mais en ce qui me concerne, je compte continuer à faire ce qu'on a déjà construit les 6-8 dernières années, c'est d'augmenter la capacité des entrepreneurs, des non-profits, des associations, essayer de faire de telle sorte que les Africains qui avaient des problèmes de langue, de langage par rapport à traduction des informations, ce qui compte trouver de l'emploi. Vous savez, on est en train de faire beaucoup de choses pour les aider à savoir comment se préparer pour les interviews, comment préparer leur CV, où trouver des financements. En fait, on a un grant de 100 000 $ qu'on attribue chaque an. Donc, ce serait à moi de décider qui doit recevoir du financement et combien. Donc, tout cela, c'est une tâche qui est très lourde. Mais bon, comme je l'ai dit, je ne peux pas le faire seul et j'aurai besoin du support de toute la communauté africaine.
Alors, généralement, pour obtenir, par exemple, des financements du gouvernement de Washington, il faut déposer un dossier. Voilà. C'est très difficile de le faire parfois et nos compatriotes échouent au niveau des dossiers. Est-ce que vous avez des conseils à donner à ce niveau?
Oui, en fait, c'est pourquoi, en fait, un de mes premiers programmes la semaine prochaine, c'est, j'ai eu à décrocher un partenariat avec USAID et ADM. ADM, c'est l'African Diaspora Marketplace, qui chaque année, finance les entrepreneurs à peu près de 50 000 $ par an pour investir en Afrique. Donc, un de mes premiers programmes est, ils viendront lundi prochain pour nous faire un workshop, pour apprendre ou donner des informations aux entrepreneurs sur comment appliquer sur ces grants, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter pour augmenter leurs chances d'avoir du financement. Donc, je compte en faire davantage en matière d'éducation et en espérant qu'au fur et à mesure, les gens seront mieux informés et dans de meilleures positions pour recevoir du financement.
Y a-t-il un volet immigration dans votre programme?
Pas directement. Vous savez, immigration, c'est quelque chose de fédéral. Donc, au niveau local, nous, on joue un rôle assez limité. Mais dans nos programmes, au niveau du bureau, on a aussi encore... Quand je parle de l'augmentation des capacités, ça aussi inclut beaucoup de programmes éducatifs sur l'immigration, la loi Obama, pas Obamacare, la loi Obama, l'amnestie. Donc, on est en train de faire beaucoup de programmes pour mieux informer les citoyens sur comment ça marche.
Les Africains ont souvent aussi beaucoup de problèmes de santé. Vous avez parlé d'Obamacare.
Ouais.
Comment seront-ils dirigés?
D'abord, il faut commencer par avoir un dialogue parce qu'on a un problème. Il y a beaucoup de choses en Afrique qui sont tabous. On n'aime pas parler de nos problèmes de santé. On n'est pas assez à l'aise pour en parler avec des étrangers. Donc, pendant les 2 ou 3 dernières années, j'ai fait beaucoup de choses pour promouvoir le dialogue sur la santé, ce qui nous empêche d'avoir des assurances de vie ou bien de visiter les centres de santé. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose est aussi d'essayer de mobiliser la communauté à aller vers les ressources, les informations. Il y a beaucoup de programmes de santé, d'aide financière à ne pas finir. Mais si les Africains ne sont pas au courant, ils ne pourront jamais en bénéficier. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont mis en place pour essayer, pour garantir à ce que les Africains ont les informations nécessaires.
Washington DC est une ville où il y a beaucoup de Noirs. Mm. Est-ce qu'il y a une place vraiment pour les Africains dans ce melting pot?
Oui, en fait, Washington DC, c'est le deuxième metropolitan area, à part New York, New Jersey et Philadelphie, qui a la population africaine la plus large. On est à peu près à 161 000. Juste après New York et zone nord. Donc, Washington DC est une zone préférée pour les Africains à cause de la diversité et des opportunités économiques. Donc, je pense que, il ne faut pas être surpris si dans quelques années on a un maire africain, parce que je pense qu'on est bien à l'aise et je pense que c'est Washington DC est un bon endroit pour.
Peut-on dire que politiquement ils prennent part maintenant à la vie de la cité? politiquement?
Oui, politiquement, ça reste. Ça, il faut aussi inclure le lobbying, l'advocacy, mais ça reste. Mais on est sur la bonne voie parce que vous savez, ça prend du temps. Ça a pris du temps pour les Mexicains, les Latinos, aussi que les Irish et trucs. Donc ça prend du temps, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
On peut rêver d'un moment où viendra où on entendra la voix de la diaspora au Congrès américain.
Oui, il y en a déjà, il y en a quelques députés ou bien congressmen qui sont déjà élus, qui sont des Africains. Mais la majeure part, je pense que l'un vient de Minnesota ou Minneapolis. C'est la communauté éthiopienne qui l'ont vraiment soutenu. On peut faire mieux que ça, mais ça vient avec le temps. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Africains ont commencé à venir ici dans les années 80-90. On n'est pas là où tu penses, mais je pense qu'on est sur la bonne voie.
Ok, il y a un projet de voter aux dernières élections, le projet concernant la marijuana. Je ne suis pas sûr que les Africains sont prêts à l'accompagner. Quelle est votre opinion en tant qu'Africain dans le gouvernement?
Oui, en fait, je ne l'ai pas beaucoup suivi, mais je pense que pour l'instant, je n'ai pas vu signe que les Africains sont derrière. Parce que vous savez, nous, Africains, il y a des choses qui nous intéressent pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. Bon, on n'est pas dedans. Mais en tant que des résidents de la ville, on paie nos impôts ici. On doit en fait nous informer davantage sur ça. Parce que bon, ça nous impacte, soit directement ou indirectement. Mais selon la marijuana, bon, je pense que les Africains sont un peu mieux sur ce sujet-là.
Alors, quel est votre mot à leur endroit au moment où vous prenez fonction et que vous commencez vos grands projets?
Bon, des prières. des prières et du soutien. À part ça, je pense qu'on a besoin de nous regrouper derrière quelque chose de spécifique. Mon message a toujours été que, bon, on est un peu divisé, la communauté est un peu divisée. Il y a les Nigériens qui travaillent dans leur coin, les Éthiopiens et les Sénégalais, mais il est temps de s'unir. Parce que, bon, il y a une répétition des efforts. Chacun est en train de faire son propre truc. Mais je pense qu'il est temps de s'unir et puis de vraiment essayer de mobiliser la population pour le bien-être de la communauté et de nos enfants et de l'Afrique d'une manière générale.
Merci, M. Mamadou Samba. Je rappelle que vous êtes directeur des affaires africaines dans le gouvernement de Washington, du district de Columbia.
Voilà, ce sera tout pour cette édition consacrée au Bureau des affaires africaines dans le gouvernement de Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Merci d'avoir été avec nous dans l'Amérique et vous. Jean-Roger Billon pour vous servir. Cette émission a été réalisée par Michel Joseph. Bonsoir à tous.
Plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Lutte contre le virus Ebola. VOA Afrique se mobilise. Rejoignez-nous sur WhatsApp. C'est simple, ouvrez l'application smartphone WhatsApp et envoyez Ebola au numéro suivant 1 202 257 35 83. Je répète, 1 202 257 35 83. vous recevrez des infos et des conseils de